Bonsoir, bienvenue dans la ligne de cœur.
Bonsoir.
Vous avez
bonsoir.
Vous avez publié récemment votre troisième livre aux éditions Acrosens, intitulé « Je suis mort, témoignage de personnes décédées ». Alors je rappelle que vous êtes jurassienne, vous avez quitté votre profession d'infirmière en 2010 pour devenir modèle d'art. Vous avez ensuite créé deux spectacles avant de vous lancer dans l'écriture, hein, avec des thèmes qui vous tiennent à cœur, la sexualité, la nudité et la mort. Et dans ce livre, vous racontez six destins par le biais de six nouvelles, six témoignages, hein, d'hommes décédés de morts différentes. Ils ont entre 12 et 92 ans. Alors il y a celui qui ne s'attend pas à mourir, celui qui décide de mourir, celui qui s'y prépare, celui qui espère qu'on ne l'a pas oublié, celui qui tue et celui qui est tué. Alors on va parler de mort avec vous certainement, entre doute et certitude, pas que d'ailleurs, mais la première chose que j'ai envie de vous demander, pourquoi, Rachel Monin, six morts d'hommes et aucune de femme?
Alors, en fait, c'était parce que j'ai écrit les deux premiers livres, donc il y a un sur la sexualité qui est une autobiographie, l'autre sur la nudité, sur le corps de la femme, de la modèle d'art, qui est un roman autofiction où toute l'expérience de modèle d'art est tirée de mon vécu. Et le fait de... C'était plus facile, là, ces six personnes qui sont vraiment totalement dehors de moi, où je me suis mis finalement dans leur peau. Et c'était plus facile pour moi de carrément changer de sexe et de me mettre vraiment dans la peau des hommes qui sont... toute ma vie, j'ai eu beaucoup d'hommes qui se sont confiés à moi. Et c'était finalement pour moi plus aisé à ce moment-là de complètement changer, de me mettre dans leur peau. Voilà.
Alors,
c'était aussi l'envie d'écrire de l'autre.
Ah, mais c'est, en tout cas, la réponse a le mérite d'être extrêmement, extrêmement claire et ben, elle ne me laisse aucun doute sur votre intention. cet intérêt pour la mort. Alors, c'est vrai que la nudité, c'est vrai que la sexualité, bien sûr, sont aussi des sujets, hein. Vous avez écrit là-dessus, évidemment aussi, et dans vos spectacles, notamment. Mais, ce choix pour ce livre, pourquoi cet intérêt, j'allais dire passion? C'est peut-être pas le bon mot pour la mort.
C'est venu un peu dans mon parcours. C'était à un moment donné, il y a eu un décès d'un jeune, la famille éloignée. Et puis, c'est un accident de voiture. Et puis, ça m'a interpellée de me dire, mais ce drame que la famille va vivre toute leur vie, et de me dire ce drame qui sera là, qui sera toujours présent, et de me dire ce malheur. Et puis, de me dire, mais si la personne décédée pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous dirait à nous qui sommes vivants? Et puis, il ne nous dirait pas de souffrir, il nous dirait de continuer à vivre. Et j'ai préféré dire, on a la certitude finalement qu'on va mourir, on sait qu'on va mourir, on a notre corps, il vieillit, il est là. Donc à un moment donné, toute cette personne décédée qu'on a été très proche, qui est partie à un âge où on aurait espéré un peu plus âgé, mais il n'y a pas de normes dans les départs, dans la mort, et de me dire, ben on va les retrouver d'ici quelques années, on va les retrouver, donc de me dire, profitons de la vie qu'on a là sur Terre avant de rejoindre les personnes qui sont décédées.
Alors on n'a pas de certitude dans la matière, c'est parfaitement vrai. Le premier décès dont vous parlez, en tout cas le premier témoin plutôt qui nous parle de sa mort, il a 19 ans, il dit justement je ne m'attendais pas à mourir. Il se pose la question, lui il se dit je ne m'étais pas imaginé mourir, en tout cas pas aussi vite. Alors évidemment qu'on imagine mourir un jour, mais donc la mort n'est pas forcément une certitude, en tout cas à un certain âge. Il est vrai que quand on est très jeune, la mort n'est peut-être pas justement une certitude, on peut en douter d'une certaine manière.
C'est vrai. On apprend aussi dans notre vie, dans notre société, on repousse la mort de plus en plus. On a peur de la mort, c'est vrai qu'on le repousse. On voit que c'est encore quelque part considéré comme une erreur médicale de mourir. Il faut mourir à passer 90 ans, voire encore 90 ans, ça tient encore trop jeune maintenant. Donc on repousse, on n'a pas envie de voir cette échéance, mais elle va arriver tôt ou tard. Et c'est vrai que il y a un siècle, voire deux siècles, voire encore à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. Et maintenant, on a pu soigner. Il y avait nettement moins d'enfants qui naissent, enfin, dans nos régions. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut naître, il faut mourir à passer 90 ans. Et qu'en fait, finalement, c'est pas la norme non plus.
Alors,
c'est
à ce sujet.
Bien sûr.
Et alors là, vous avez. C'est un, peut-être mon préféré, je ne suis pas sûr, en fait, mais j'ai beaucoup aimé les six personnages. Je feuillette votre livre, on parle justement de la vieillesse. Il y a une tellement jolie réflexion sur la vieillesse, ce personnage qui a 92 ans, qui finalement, je ne dis pas qu'il l'attend avec plaisir, la mort, mais enfin, il l'appréhende en tout cas d'une façon extrêmement différente. Et au passage, vous avez j'ai beaucoup aimé ce petit extrait. Il est dans un EMS ou en tout cas dans une maison, dans un foyer, on suppose, et il dit je suis devenu l'extraterrestre, en tout cas une espèce d'extraterrestre, car je vais pisser tout seul. Vous vous rendez compte? C'est vrai que c'est les gens qui viennent le voir, que ce soit la famille, les amis, qui lui disent mais formidable, comment tu vas bien, parce que t'es encore capable de marcher tout seul de ton lit jusqu'au WC comme un grand. Et lui, évidemment, on se rend pas compte à quel point. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on, alors peut-être pas sous cette forme, que l'on dit nous aussi parfois à nos anciens, hein. Ah mais finalement tu vas bien, t'arrives encore à porter ta tasse à café tout seul. On se rend pas compte quel poids les mots ont à ce moment-là. Ça m'a interpellé beaucoup ce passage. Ça m'a fait rire, il est drôle comme vous l'écrivez, c'est très amusant. Mais en même temps, il y a une vraie réflexion, une vraie idée forte derrière. Faut qu'on y pense parfois. On s'en rend pas compte surtout. On croit bien faire, on le dit pour faire un compliment, puis en fait, c'est pour la personne qui reçoit ça, c'est pas évident du tout à entendre.
Oui, et puis c'est vrai que c'est quelque chose de courant. Moi, j'ai travaillé beaucoup en maison de retraite, justement, comme infirmière. Et puis, effectivement, c'est quelque chose qui est récurrent. La famille se dit « Ah, mais ça va encore ?» Oui, mais la personne, elle a toujours été autonome, elle a des responsabilités, des choses, et tout d'un coup, de se voir dégradée, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est très dur à accepter. Et de faire encore que les gens voient que le positif, mais dire « Oui, mais... » on va quand même vers le bout du chemin et eux, ils le voient très clairement, quoi. Et nous, on se rend pas toujours compte, quoi. On se dit, c'est déjà bien, quoi.
L'importance, là aussi vous touchez quelque chose d'un, alors on le sait, on le redit d'ailleurs parfois dans cette émission de témoignage, hein, que vous connaissez bien, de dire aux gens qu'on les aime quand ils sont vivants, c'est toujours mieux que quand ils sont morts. Et le jeune, je crois au départ, il y a une phrase à un moment où il dit « si vous m'aviez parlé de mon vivant, si vous m'aviez dit tout votre amour tel que vous l'imaginez actuellement, je vous aurais peut-être pas répondu, mais en attendant, qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien ? C'est ce que vous écrivez.
Oui.
Dire cet amour.
Oui, moi je pense vraiment, mais c'est un peu cette réflexion, en fait, aussi de mes six personnes, c'est que finalement, on est sur Terre, on a beaucoup de soucis matériels, on est pris dans cette société qui va à 200 à l'heure, et qu'en fait, finalement, quand on va mourir, ce qui restera, c'est l'amour, c'est ce qu'on a répandu autour de nous. C'est l'amour, c'est pas le matériel, et c'est ça qu'on va emmener. Et finalement, c'est ça aussi c'était ce jeune qui disait, finalement, je l'aurais pas écouté parce qu'on est à 200 à l'heure. Mais finalement, c'est ça que je retiens, et c'est ça aussi qu'il entend maintenant, même qu'il est décédé. Et c'est vrai que moi, j'ai cette certitude qu'on a un contact avec les personnes décédées, que c'est le corps qui meurt, mais qu'en fait, notre âme est toujours là et qu'il y a vraiment encore un contact qui se fait entre les morts et nous qui sommes sur Terre avec notre corps actuellement. Et je pense qu'il y a vraiment ce lien et que finalement, c'est ça qu'on peut transmettre encore avec nos personnes décédées, c'est l'amour et ce qu'on a vécu de beau.
J'avais préparé toute une série de questions. Je vais vous en poser quelques-unes, mais alors faudra répondre très brièvement, ou alors vous me dites non, ça j'y réponds pas. C'était des questions, je les ai mis en guillemets. Est-ce que vous y croyez? Les synchronicités, vous en parlez. Vous savez, quand tout d'un coup on a le sentiment qu'une personne décédée nous parle, ou qu'en tout cas il y a un événement qui se produit, qui voilà, les synchronicités en effet. Il y a la réincarnation également que vous évoquez. La mort imminente, hein, sortir, c'est ce moment où on sort de son corps. L'au-delà, bien sûr, la survie de l'âme. Allez, je fais un multipack, là. Vous croyez à tout ça?
Oui.
Oui.
Je crois à tout ça. Oui.
Et est-ce que vous croyez en Dieu, Rachel Monin? Est-ce que vous croyez en Dieu?
Alors, je crois, c'est pas dans le sens Dieu, je suis née catholique, mais moi, je crois vraiment à une spiritualité, finalement. C'est pas la religion. En fait, toutes les religions sont, à la base, c'est la même religion. Après, l'humain en fait des lois, différentes lois. Mais à la base, je pense que c'est vraiment le côté spirituel, l'amour. Alors, ce n'est pas forcément un grand Dieu. C'est qu'on fait tous partie, finalement, de Dieu. Quoi. Il y a une puissance qui est plus forte que juste nous sur Terre.
Dans la série des doutes et des certitudes, lorsqu'on est devant une page blanche ou devant un écran maintenant d'ordinateur, ce que j'aime moins pour ma part, je continue à aimer le stylo et la page blanche, ou le crayon de papier, et il y a des doutes, souvent, il y a même que ça. Il y a rarement de certitudes, notamment quand on se relit, on est rarement tout à fait sûr de soi. Vous, l'écriture, plus de doutes, peu de certitudes, peut-être le contraire. Ou quel doute et quelle certitude en ce qui vous concerne ?
Il y a toujours beaucoup, il y a beaucoup de doutes toujours, mais en même temps, quand j'écris donc finalement les 6 personnes, j'essaye de me mettre dans leur peau, de m'imaginer dans leur peau pour écrire, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et à un moment donné, moi, je pars en transe. Donc tout d'un coup, c'est comme si j'étais dedans, c'est comme si j'avais vécu à leur place et le jeu n'est eux et n'est plus moi. Donc à un moment donné, effectivement, tout d'un coup, quand je suis dedans, ben ça part en certitude, quoi. C'est tout d'un coup, ben, il faut que j'écrive et je cours avec mes doigts sur l'ordinateur. Et puis, puis tout d'un coup, tout ça sort pendant 2-3 heures. Et après, ben, je vais relire le lendemain, le surlendemain et repeaufiner. Mais il y a quelque chose qui est tellement fort que finalement, ce premier jet, je vais encore beaucoup recorriger, mais ce premier jet, je le garde parce que il est là, il fait ça. Et je suis dedans. Mais avant, après, il peut y avoir des doutes. Mais il y a ce truc-là qui me pousse.
Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé aborder, on n'aura pas le temps, à propos des doutes et des certitudes. J'avais assez envie de parler de solitude également, parce qu'elle est très présente au fil de vos nouvelles. Et pour cause, hein, parce qu'on est totalement seul face à la mort, et même dans la mort, hein, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Là, on parle de foi d'un côté ou de conviction, et puis on peut, voilà. Je me demandais aussi, qu'est-ce que vous entendez ? Il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé. Ça doit être la page 16 de votre livre, que je feuillette, on entend d'ailleurs le bruit du papier, mais c'est pas gênant, hein, dans une émission comme celle-ci. Où un personnage dit bien vivre sa vie. Et moi, je voulais vous demander qu'est-ce que vous entendez par là. Il dit j'ai bien vécu toutes ces années, même si vous trouvez qu'il n'y en a pas eu assez. D'ailleurs, que veut dire bien vivre que je n'ai pas de regrets. Qu'est-ce que le regret? J'ai vécu comme tout un chacun. Vous répondez pas à la question, vous y mettez des points d'interrogation, voire de suspension. Vous, à votre point de vue, pour vous, hein, pas pour vos personnages, Rachel Mona, bien vivre sa vie, pour vous, ça veut dire quoi ?
Je dirais, c'est vivre dans la conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est, plus vivre dans l'être, finalement, que dans le faire. Parce qu'on est beaucoup dans le faire, et de revenir finalement à l'être, et revenir se recentrer entre notre cerveau qui a tendance à partir dans tous les sens, notre corps qui peut être qu'à une seule place en même temps. C'est vraiment essayer de se remettre ensemble, le cerveau, le mental et le corps, parce qu'on peut être là qu'à une seule place en même temps, et de vivre avec soi et avec notre entourage autour de nous.
Vous arrivez, vous y arrivez plus exactement ?
J'essaye d'y arriver. J'essaye de tendre vers là et de me dire tout d'un coup quand il y a du stress, dire « Oh là là, je suis en train de partir, il y a un truc, il faut que je revienne et me recentre. » Mais effectivement, je dirais chaque jour, il faut le réactiver et en reprendre conscience, quoi. Et après, je dis « C'est pas mal de le perdre et puis de dire « Non, mais je peux revenir, c'est bon, ok, mon mental est parti, maintenant on peut se remettre ensemble et on va essayer de se remettre là avec l'autre en étant bien. »
Est-ce qu'il y a encore un doute ? C'est la question que je posais à Jean-Jacques tout à l'heure, avant le journal de nuit. Est-ce qu'il y a un doute comme ça qui continue à... Bon, c'est peut-être un peu fort vous hanter, mais en tout cas qui continue à vous accompagner au fil de la vie, un doute avec un D majuscule ?
Il y a toujours un peu des doutes, et je dirais plus des interrogations que des doutes, parce que les doutes, il y a quelque chose d'un petit peu négatif dans ce mot doute, mais c'est plus des interrogations, de se dire est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que tiens, il y a ça qui m'appelle, ou tout d'un coup on sort que des fois on va vers un chemin, mais on a effectivement trop de doutes finalement, on se dit ouais, il y a un truc qui joue pas, et c'est finalement je gérais plutôt ces interrogations, et tout d'un coup il y a des déclics, des fois il y a des déclics, on se dit ah c'est là. Et puis c'est là que, parce que c'est vrai que moi j'ai pas de travail fixe, je vis entre les livres, je chante aussi, donc j'ai beaucoup de, chaque jour finalement c'est une grande interrogation, et des fois effectivement il y a beaucoup de doutes, mais c'est plutôt d'aller vers l'interrogation, de tester les chemins, il n'y a pas d'erreur, on vit notre vie et puis faut la vivre. Et puis il n'y a pas d'erreur, tant pis si on prend un mauvais chemin, ben après on se dit ben on a pris ce chemin-là, mais non, maintenant on veut prendre plutôt celui-là, on a testé ça, ben c'est pas le bon. Et on va là où le vent me mène, quoi, c'est un peu ça.
Une vie ponctuée par les incertitudes, à mon avis, il n'y a rien de mieux. Si vous le permettez, je terminerai juste avec ce que vous avez mis en exergue, presque la préface de votre livre, si on veut, signé Antonin Delmas-Certillange, qui était un philosophe, un prêtre d'ailleurs, hein, qui a vécu entre 1860 et 1940, et c'est très beau. Par la mort, dit-il, écrit-il, la famine se détruit pas, elle se transforme, une part d'elle va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence quand elle est une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime toute distance en ramenant à l'esprit ce qui se localisait dans la chair. Et cette phrase que j'aime beaucoup, vivre, c'est souvent se quitter, mourir, c'est se rejoindre. Voilà, pour ma part, ce sera mon mot de la fin et je vous laisse, Rachel Monnat, le vôtre.
C'est vrai que cette phrase de Certillange m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai qu'elle résume en fait finalement ces six personnes de se dire voilà, c'est l'amour, il faut aller dans l'amour de soi, dans l'amour de ce qu'on véhicule. Et ce que je trouve important, c'est de se dire on ne sait pas quand on meurt, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être dans quelques mois, ce sera peut-être dans quelques années, mais de se dire, d'être prêt finalement à se dire qu'on va quitter, que notre corps va quitter cette terre et qu'on va rejoindre nos êtres aimés, qu'on a toujours un dialogue entre la terre et le ciel.
Merci beaucoup, Rachel Monnat. Je rappelle votre livre « Je suis mort, témoignage de personnes décédées » paru aux éditions Acrosens. Voici les nouvelles. Très belle nuit à vous. Merci beaucoup. À bientôt.